Bien, proboscopiennes et proboscopiens, divergentes et gens divers, rien ne va plus. Mais convenons-en, ce n'est pas une raison pour que le bon, la brute et le truand ne vous saluent pas. Vous n'êtes pas sans savoir que la République a demandé à la démocratie de jouer le rôle pour lequel elle avait été rétablie il y a de ça un peu plus d'un siècle et demi, même si Thiers, Adolphe de son prénom, craignait la vile multitude, enfin bref, les pauvres, celui de déléguer le pouvoir à quelque élite aristocratisée. Or, hier, mes chers concitoyens l'ont joué dans la série Boudeur. Ici, je m'abstiens, là, je vote blanc, là-bas, je vote nul, j'imprime, mais je ne m'exprime pas. Dans la série, dans une France socialiste, je mettrai tous ces fumiers debout et leur ferai fumer jusqu'au mégot de mon dégoût. Ils ont voté et puis après... Enfin, autrement dit, c'est le Big Bazar. Ainsi que le proclamait l'inconsistant Cohn-Bendit au lendemain du joli mois de mai. Ouais, monsieur, la vie de l'homme blanc est difficile et l'individu prend le pas sur le citoyen par les temps qui courent. Alors comment interpréter radiophoniquement la chose ? Ben, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Dans Proboscopie, rien d'impossible. C'est pourquoi nous avons choisi, démocratiquement, d'inviter un journaliste. Un vrai, avec carte de presse. Un pour qui les 5 W sont une connerie, considérant qu'il y en a au moins un de trop. Le why, le pourquoi. Car, professe-t-il, le pourquoi relève de l'analyse et non de l'objectivité, et donc de la déontologie. Et c'est qui cet énergumène ? L'ami Jacques Moulin, patron de Naja Presse, une agence de presse sise à Paris, Marseille, mais aussi à Montpellier. Et nous couillons de croire, non de penser, qu'il serait le plus compétent pour nous livrer à chaud une analyse du scrutin de hier. Yesterday in British. Mais qui est-il ? Vous le connaissez pas. Alors attendez un instant, pour mieux le découvrir, nous allons lui demander de se prêter à notre petit quiz intitulé « Le quitter-toi » et de l'inviter à exercer sa liberté pleine et entière au travers d'une poignée de questions à double entrée et une sortie. Permettez-moi de prendre un exemple. Si l'un de nous lui dit « qui » ou « quand » et qu'un autre ose répliquer « comment ?», il aura le choisir de rétorquer « c'est une bonne question ». Ou si vous préférez « on est en on ou en off ?» Moi je pense que j'ai été clair. Bon, on va jouer après le jingle.
Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2 000 $?
Bon, alors on va se faire ce petit quitter-toi. Bon, à voir un peu comment on va réaliser la chose. Bah tiens.
Bonjour d'abord.
Oui, là, bonjour Jacques.
Bonjour. Bonjour.
Bon.
On n'est pas poli ici. Hein.
Tiens, je commence. Je vais dire Tintin.
Ah ben, je vais dire. Vous le tablier.
Oula. Je vous achetez un paquet fort.
Tu préfères quoi?
Je préfère ni l'un ni l'autre, en fait. Tintin est beaucoup trop religieux pour moi.
Et pas sexuel.
Et Rouletabille.
Ça n'est pas
assez sexuel pour moi.
Bon, alors bah tiens, on va continuer. Moi, je dirais Louis Plenel.
Ou Franz-Olivier Gisbert.
Ah, on est encore devant un choix qui ne me convient pas.
Aïe.
Ah ouais, bah c'est difficile alors. Hein. Alors si je veux dire copinage.
Coquinage.
Coquinage entre qui et qui ?
Bah, copinage ou coquinage ?
Non, aucun des deux.
Ah bah rien du tout.
Pour le moment, on est tranquille. Aucune réponse.
Aucun des deux.
Et savoir écouter ?
Ou plutôt savoir entendre ?
Ah, savoir entendre, bien sûr.
Ah, voilà.
Mais on ne peut pas savoir entendre sans savoir écouter.
Bon.
Formé ?
Non, informé.
Informé. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne suis pas formateur.
Individu ?
Ou citoyen ?
Oh, individu. Le citoyen vient après.
D'accord.
Ah, ça c'est pour moi. Presse aux opinions ?
Non, opinion de la presse.
Ah, opinion de la presse, oui.
S'abstenir.
Oh, c'est nul !
C'est nul, oui. C'est pas assez amusant.
Voter nul ?
C'est voter blanc.
Non, il y a une différence.
Ça dépend.
Pardon ?
Ça dépend. Comment on perçoit le bulletin blanc ? Rassemblement bleu marine.
Infinitude.
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 Ah, qui sont ces gens-là?
Ah bon, d'accord. Il prétend informer, hein. Bon, alors qui sont-ils? Allez.
Sorélisme.
Être adroitement de gauche.
Oh, sorélisme, alors.
Raser gratis.
Oh, tu me barbes.
Tu me barbes.
Rien ne va plus.
Oh, mais alors, tout va bien.
Tout va bien. Pour nous, en tout cas, ici.
Hein. Oui, oui, pour le moment, ça va très bien. Alors, je raye.
Non. Tu votes. Tu votes.
Non, tu votes, c'est mieux. Oui.
Paris, Lyon, Marseille.
Un train d'enfer.
Un train d'enfer, c'est certain. Ça me rappelle Gaston Defer.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Dis-moi tout.
Peut pas. Il y a du off.
Dis-moi tout.
Reporter sans frontières. Vive, vive, vive Ménard.
Alors, c'est dommage pour Reporter sans frontières qu'on l'assimile à Ménard.
Enfin, non, c'est dommage qu'il ait pu faire la partie des racks.
Peut-on tout dire?
Doit-on tout faire? Ou tout dire, pardon. Doit-on tout dire?
Alors, pour ce qui me concerne, c'est on doit tout dire. Mais moi, je suis journaliste, pas politique.
Alors, s'il te plaît, Jacques, dessine-moi un mouton.
Non, dessine-moi un électeur, c'est plus facile.
Ah oui, surtout que les moutons, j'ai jamais aimé.
Oh, druckerise-moi les municipales.
À dimanche prochain.
Ah ben là, on n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est un peu la même chose. Ni l'un ni l'autre, si c'est possible.
Bon, ouais, bon. Alors, merci beaucoup. Là,
alors, c'était le qui, tais-toi.
Dis donc, toi, tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2 000 $.
Mais toi, tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera.
Bon, c'est bon. Maintenant, on connaît les fulgurances de la pensée de notre batracien de la semaine, Jacques Moulin. Il ne nous reste qu'à découvrir son moi profond. Enfin, désespérez pas, provoscopiennes et provoscopiens. Chaque chose en son temps. Et au-delà de ce qui tais-toi qui lui a permis de commencer à s'exprimer, on va tenter de dresser un portrait provoscopien. Bon, mais, oui, Jacques Moulin, quand même, j'aime bien ce garçon. T'es, on a fait une petite chronique qui sera diffusée samedi prochain dans Quoi de Neuf Doc, qui s'appelait Dire Non. Et ben alors, ça commence vraiment par non. Tintin roule ta bille. Non! Edwin Plenel ou Francis Olivier Gisbert? Non. Copinage ou coquinage? Non. Ça va écouter ou entendre? Il préfère être entendu plutôt que d'être écouté.
Bon. Non, je préfère entendre qu'écouter.
Ah, ça c'est le côté journaliste.
C'est le côté sarkozien.
Alors après, évidemment, il préfère informer plutôt que former. On pourrait développer un petit peu le côté individu ou citoyen, l'individu. T'as lu l'Express de cette semaine, non? Qui disait que l'individu avait pris le pas sur le citoyen. Et que donc il était devenu, en quelque sorte, incontrôlable.
Non, je pense qu'il y a une différence nette et ancienne entre citoyen et individu, qu'il y a différence entre la société et l'individu. L'individu s'intéresse à lui, c'est normal. Au bout d'un moment, quand il est dans un contexte social, quand il est dans des obligations sociales, quand il est dans son rôle social, évidemment, c'est difficile de faire la part entre les deux. Ben, la citoyenne prend le dessus.
Bon, et puis moi j'ai bien aimé, après, on sent quand même le rebelle, quoi, le journaliste rebelle, dans la série « Tu me barbes », tout va bien, Paris-Lyon-Marseille, c'est un train d'enfer. Et puis, dans le « Dis-moi tout » et « Peut pas, il y a du off », c'est carrément le « Dis-moi tout ». Le off, non, tu respectes pas le off. C'est comme dans Provoscopie, quoi.
C'est, je pense que les résultats d'aujourd'hui...
Bon...
Voilà. C'est suffisant comme réponse.
Ah oui, hein. Peut-on tout dire, doit-on tout dire? On doit tout dire, on doit vraiment tout dire à la mode anglo-saxonne?
Bah, tout dire, oui, en fait, tout dire de ce qu'il a vu public. Le reste, ça n'a pas d'intérêt, surtout. Hein,
pour ah, oui, ah oui, non, non si c'est purement et simplement privé, d'accord, mais sinon, on doit tout dire.
Bah, si c'est purement et simplement privé, c'est intéressant pour vendre, sinon, on doit tout dire, oui.
Bon, après, que Jacques Moulin n'aime pas les moutons, on n'en doutait pas, et puis que Drucker, ce soit pas sa tasse de thé, on n'en doutait pas non plus. Bien, alors que le soleil jouait les timides au cœur des ruelles montpelliéraines, le bon, la brute et le truand ont croisé un homme bien mis, écharpé, qui déambulait, répondant au nom de Jacques Moulin. détourné de ses occupations investigatrices, il a accepté d'être parmi nous durant 90 minutes dans Divergence et dans Proboscopie. Chacun leur tour, les trois coyotes que nous sommes, le bon, la brute et le truand, vont l'interpeller bonnement, à la brutale, mais évidemment avec mauvaise foi. Écoutons maintenant la douce litanie du bon quand il déverse ses mots dans une encre marseillaise qui rêve encore et toujours de héros, même d'un jour.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Bonjour, Jacques. Bon, la presse porte bien son nom. Cette volonté d'être le premier, de rendre compte d'un fait de la manière la plus authentique, a entraîné une dérive vers la course à l'image, la course à la déclaration, la course à l'article, vive le scoop. Nous nous orientons vers le fast-food de l'information, on délivre vite des infos avec de moins en moins de traitements. La presse écrite ne pourra jamais gagner cette course de vitesse. Pourtant, l'écrit ne devrait plus s'appeler la presse, mais au contraire, la pause de réflexion. Car l'écrit permet au lecteur de passer le temps qu'il désire sur les articles qu'il désire. L'écrit est capable d'analyser, de traiter l'information. C'est pour cette raison que nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio un homme de l'écrit, un vrai journaliste, qui va nous aider à écrire de belles pages pour nos auditeurs.
Nous sommes à la compagnie de Jacques Moulin, il est avec nous pour dresser un inventaire du municipalisme montpelliérain, bien sûr, mais départemental, régional, voire même national. Impossible, direz-vous. Non, tout est possible en proboscopie. Mais avant tout, Jacques, on va commencer par une petite proboscopie. Commenter des résultats électoraux à chaud, est-ce vraiment du journalisme ?
Oui, parce que heureusement, l'actualité ne se fait pas le jour où elle se fait. C'est toujours un processus de quelque chose. La campagne électorale a existé avant. Les estimations, les sondages, les avis des uns et des autres permettent de situer le contexte. C'est dans ce contexte-là qu'on travaille.
Oui, mais commenter, c'est déjà analyser. Analyser, ça, c'est pas les quatre bons W.
Si, bien sûr. Il y a une différence.
De l'émotivité, de l'affect, de la mauvaise foi.
Bien sûr, il y a la personnalité, il y a positions de l'individu. Mais l'essentiel, c'est de se tenir à son rôle de journaliste. Donc, j'ai pas d'avis.
Mais alors, c'est quoi le rôle du journaliste ?
C'est de situer le contexte dans lequel les choses se passent pour pouvoir expliquer aux gens
comment les choses se passent. Qui, où, quand, comment ? Point barre.
Alors, ensemble. On peut commenter quand même. On commente un peu en tant que journaliste.
Ben oui, commenter, oui, bien sûr. Oui. Et après, c'est l'opinion qui rentre. Donc la presse écrite a un rôle plus important que le service public, par exemple. C'est-à-dire qu'au moins en apparence, les services publics que sont les radios, les télévisions et l'agence France-Presse ne sont pas dans le commentaire, le rapport des commentaires où elles font venir des chroniqueurs référencés comme tels. Mais sinon, on est vraiment dans l'analyse.
Non, moi, ce que je voulais dire, je ne sais pas si c'était clair, mais enfin, ce que je voulais dire dans mon propos, c'est que le fait de prendre un stylo pour écrire un papier sur quelque chose, ça oblige obligatoirement quand même à avoir un minimum de réflexion. Alors que lorsqu'on fait venir des hommes politiques ou des commentateurs qui commentent un soir d'élection sur une chaîne de télévision ou dans une radio, où nous sommes aujourd'hui, où le mec, en fonction du résultat, bon, se répand dans des explications. Quelle est vraiment la portée, effectivement, de ces analyses-là ? C'est ça la question.
Entre deux tours d'élection, c'est toujours compliqué, parce que les plateaux de télévision, déjà la veille, invitent des gens qui sont là pour gagner des voix, pour rien d'autre. Donc on n'est pas tellement
entre
dans la
politique.
Entre deux tours. Oui, je parle d'aujourd'hui, donc. Et en plus, on est sur des élections locales avec des invités nationaux qui ne parlent que de questions nationales. Donc l'analyse, le commentaire sont assez faibles. Il est évident que, si on prend dans la région, c'est évident que l'analyse nationale ne suffit pas.
Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et pourtant, on semble insister sur ce côté national dans cette élection locale. Vous ne trouvez pas ?
À toute élection. Si on prend, d'abord, on est à une élection de mi-mandat. Donc toutes les élections de mi-mandat dans le monde entier ont des caractéristiques, par exemple. Donc aux États-Unis, c'est bien connu, tout le monde le sait. Si on prend en France, c'était exactement la même chose en 83, en 2008, juste après des élections présidentielles, c'est-à-dire un an et demi après, la déception des électeurs.
Même dès 77, dès 77 après l'élection du
Giscard. Après 74, c'est Giscard.
J'étais pas là pour ça.
D'accord.
Ça fait rien. Ça commençait tôt, mais on a bien compris qu'à mi-mandat, c'est une élection qui est un peu nationalisée.
Bon,
entre guillemets.
Quoi qu'il en soit, le bon a chauffé ses cordes vocales pour converser avec notre invité. On va permettre au bon de flatter notre invité pendant un petit quart d'heure.
Non, on va revenir, si tu veux bien, Jacques, sur. Nous sommes ici à Montpellier, nous sommes dans l'Hérault. On va revenir, disons, sur les résultats des élections héraultées. Disons, qu'est-ce que tu retirerais comme indication, comme ça, deux, trois éléments sur les résultats qui ont été promulgués là, ce dimanche ?
Dans l'Hérault.
Dans l'Hérault, essentiellement.
La première chose, c'est que la presse s'y est peu intéressée. Ce qui dénote quelque chose. C'est-à-dire que ce qui se passe à Montpellier, c'est quand même une configuration assez originale. Et la presse nationale s'est très peu intéressée à ça. Il y a un petit article dans Libé. Les télés et les radios n'ont pratiquement pas parlé du tout hier soir, ni ce matin. Et il y aura un article dans Le Monde cet après-midi. Bon, voilà, c'est particulièrement réduit. Alors qu'on a une configuration très originale, puisqu'on a trois candidats qui arrivent à peu près au même score à Montpellier, qui est quand même la capitale régionale. Et on ne sait pas qui va se maintenir, donc c'est quand même assez intéressant comme situation. Pour les autres villes du département, ben je suppose, alors je connais peu le département, mais j'imagine que Béziers, il y a un fort problème de bilan du maire sortant, parce que la plupart des maires sortants restent quand même en tête dans toute la France, dans les villes de plus de 10 000 habitants.
Et oui, c'est dans ce qu'on appelait la prime au sortant, quoi.
Alors, la prime, non, parce qu'ils ont tous perdu, surtout les socialistes, ils ont perdu au moins 10%. Mais ils restent quand même en tête. Ils ont des chances de se faire élire au second tour dans la plupart des villes de France. Béziers, c'est quand même l'inverse complètement. Alors, c'est dû certainement à la personnalité... le maire sortant s'en allait. On ne peut pas dire que la ville et la gestion municipale aient donné des miracles pendant 12 ans.
18 ans, même. 3 mandats. Oui.
Et on peut citer dans la région aussi Perpignan, qui est un peu dans le même cas de figure.
Alors, on n'est plus dans l'Hérault.
Oui.
Mais dans la région.
Perpignan, oui, bien sûr. Perpignan, c'est un peu différent. Je pense que. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Ménard ce matin sur France Inter, mais visiblement, il n'a plus rien à voir. Le Front National, il les a pris avec eux, mais pour leur faire plaisir. Donc, il n'est plus Front National.
Il est gentil.
Il faut qu'il réagisse tout le monde, là. Donc, il a bien précisé.
Parce qu'il veut faire sa dernière ligne droite.
Oui. Et puis, alors, il a insisté
longtemps. Mais quand même, derrière Ménard, bon...
C'est-à-dire, je crois surtout qu'il veut faire une carrière personnelle. Ça se sent. Hein.
Après, derrière Ménard, il y avait effectivement le Front National, mais il n'y avait pas que le Front National.
Il y a le journaliste.
Il y a le RPF qui était derrière. Il y a aussi... à la faveur, disons, des problèmes de l'UMP, il y avait quand même tout ce qu'on appelle la droite populaire, etc., qui s'était un petit peu collé à lui. Donc c'est pas exclusivement Ménard, score seulement Front National.
Oui, je crois que ce qu'il veut faire pour le deuxième tour, c'est essayer de vider ce qui reste de voix socialiste de Duplat.
C'est-à-dire, je pense d'abord, il y a... Si on prend l'ensemble du Sud, il y a une montée du Front National, comme j'allais presque dire comme à chaque fois que la crise s'accentue, c'est quand même une région qui a été fortement ouvrière, fortement industrialisée, où la crise est très forte. Donc on prend les bastions, les anciens bastions communistes par exemple, sont très forts Front National. On voit dans le Gard, on le voit en partie en région parisienne aussi, mais bon, c'est différent. La montée du Front National se fait un peu partout, à peu près pareil. Surtout dans les endroits les plus pauvres, donc Marseille, Avignon, un certain nombre de villes comme Perpignan, qui n'est quand même pas une ville très riche. Mais je pense qu'à Béziers, il y a un phénomène en plus, effectivement. Ménard, c'est un phénomène en plus. C'est-à-dire qu'il y a le Front National plus autre chose.
Souvent, quand il y a quelqu'un qui est connu en dehors du fait qu'il soit proche du Front National, c'est là qu'il y a une percée encore plus nette. C'est-à-dire que c'est un... Il ne se présente pas sous l'étiquette vraiment Front National, mais avec l'appui du Front National.
On a deux cas.
On peut penser aussi à Maître Collard.
Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. On a deux cas, parce que Collard est très, très médiatique. Là aussi, avec un parcours personnel qui semble dominer sur le parcours politique. Gilbert Collard était socialiste, très proche des socialistes, puis il a navigué, il a attaqué Le Pen d'ailleurs, je me souviens, parce que c'était le défenseur de Madame Le Pen, pour qu'il a négocié un contrat dans lui, si on se souvient bien.
La première Madame Le Pen qui posait dans des magazines.
C'est lui qui avait négocié le contrat. Donc on est sur des personnalités qui ont besoin de s'affirmer. Alors je ne sais pas ce que leur ont fait leurs parents, mais ils ont besoin de s'affirmer, c'est clair. Et pour ça, ils ont pris cette voie. Collard avait essayé ailleurs avant, hein, ça n'a pas marché.
Ce que je crois quand même, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais quand on regarde les résultats du Front National, ils sont essentiellement dans le sud de la France, de Perpignan à Nice, je dirais, sauf Nice. Et après, c'est essentiellement...
Le nord et l'est, quand même.
Après, il y a le nord et l'est. Voilà.
Les bastions, oui. Les anciens bastions.
C'est essentiellement sur ces terrains. Il faut penser quand même que sur 36 000 communes et des poussières, il n'y avait que 600 listes du Front National qui étaient... Sur ces 600 listes, l'effort a été entrepris, effectivement. Là où la présidentielle avait donné des scores, donc les régions qu'on vient de citer. Et y compris là, ils ont mis le paquet avec des personnalités, avec des... Ils ont mis réellement le paquet. Y compris quand on regarde le département de l'Hérault, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on regarde le département de l'Hérault, à l'exception par exemple de Béziers, qui est un score qui interpelle, sur les autres communes du département, je dirais que même à certains endroits, le Front National a reculé par rapport au présidentiel. Je pense à Agde, je pense à Lunel, je pense pourtant à des zones où effectivement il avait eu...
Frontignan aussi même.
À Frontignan, etc. Et y compris dans beaucoup de communes, il est complètement... il fait des scores vraiment dérisoires. Peut-être justement aussi, à l'exception de Montpellier, où effectivement là il a progressé.
Oui, mais enfin, il a progressé dans des... C'est raisonnable, je veux dire, c'est pas 50%, là, on est à 14...
Il a progressé, oui, mais si on le regarde, il a progressé par rapport au municipal de 2008, mais c'est vrai que par rapport au présidentiel, il est stable.
Si on parle des résultats des élections, il y a quand même deux choses qui viennent en premier, c'est que entre le premier tour et le second tour, quand il y a un tel taux d'abstention... c'est difficile de déterminer ce qui va se passer au second tour. C'est-à-dire de savoir combien il y aura d'élus, combien il y aura de villes prises par les uns ou par les autres. C'est très difficile. La deuxième chose, c'est que l'abstention a énormément monté. Et puis alors, dans des endroits, à Montpellier, je crois que c'est près de 50%. Hein, on n'a pas très loin, en fait.
Il y a 48 et quelques d'abstention. Et il y a 3,3 de bulletins nuls.
Voilà,
donc ça fait plus de 51% de non-exprimés.
C'est ça.
Donc ça fait exprimé, ça fait du 48,7 ou quelque chose comme ça. C'est une première à Montpellier. Oui, ça c'est jamais vu, ça.
Montpellier ne représente pas la région. Hein. Dans la région, il y a eu des endroits où il y a quand même de 70% de votants.
Oui, dans certains endroits. Mais enfin, la moyenne nationale est quand même très faible. C'est,
oui, 60. Bon,
hein. Là encore, c'est dans les quartiers les plus défavorisés que l'abstention est la plus forte. Et on trouve dans la région parisienne des taux, dans Seine-Saint-Denis, il y a des taux de 70% d'abstention, ce qui est énorme.
Oui, mais est-ce que la corrélation entre l'abstention et le score du Front National, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre les deux? Parce que je regarde Fréjus, par exemple, où il y a eu une grosse participation, le Front National a fait un carton. Je vois que, par exemple, sur Béziers, il y a eu une participation correcte. Et il y a un gros score du Front National. Je vois dans le Gard, sur Saint-Gilles, etc. Ouais. C'est un petit peu le même phénomène. Donc là, je me pose la question, à savoir si effectivement, justement, le Front National, sur ces élections municipales, n'est pas allé chercher, a su aller chercher les abstentionnistes. Est-ce qu'il n'y a pas cette corrélation?
Je crois, pour le vote Front National, je pense que c'est le vote le plus national. C'est-à-dire qu'on votait moins pour des programmes locaux, moins pour des électeurs, des personnalités qu'on connaissait, que contre quelque chose.
D'autant que le Front National, nulle part, n'a de programme véritablement. Alors, à un moment où le nouveau maire, question lui a été posée, bon, ça va être quoi votre première décision?
Et l'autre, il a bafouillé d'abord.
Il bafouille, il ne sait plus où il en est.
Il répond, la police municipale, ça ne veut rien dire. Oui. Et quand on demande, quand on regarde les premiers sondages, les préoccupations de vote des électeurs Front National, ce sont... trois préoccupations qui ne sont pas de la compétence municipale, c'est-à-dire l'emploi, C'est quand même assez faible dans une ville, le pouvoir d'un maire sur l'emploi. Le pouvoir d'achat, alors là, c'est carrément nul.
Et la sécurité.
Et puis la sécurité qui relève là, quand même pour l'essentiel de l'autorité nationale. Donc on est complètement dans quelque chose de national. Donc on est vraiment dans un vote qui est plutôt contre, mais qui a des élus quand même. Donc il y a quelque chose pour qui se passe. Et dans la plupart des cas... est-ce qu'ils ont fait le plein? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est assez compliqué à dire. C'est vraiment très compliqué d'analyser comme ça maintenant parce qu'on aura les chiffres. On n'a même pas d'abord les études d'après-vote, c'est-à-dire savoir qui a voté quoi, dans quel quartier, tout ça, les sexes, l'âge, ça, tout ça joue. Ce qu'il y a de sûr dans le Front National, c'est que le personnel s'est complètement renouvelé. On n'a plus l'équipe de Le Pen, c'est-à-dire les gens qui représentaient par exemple l'Algérie française, ces gens-là ne sont plus là. Il y a énormément de jeunes, des jeunes, de très jeunes d'ailleurs.
Bah, 70% des gens qui sont sur la liste FN l'étaient pour la première fois.
Oui. La fille a presque tué le père. Hein.
Oui, ça on verra après, elle lui ressemble tellement que
ça, physiquement. C'est l'histoire qui le dira.
Mais bon, tout ça va s'analyser. Après, on verra au second tour ce qui va se passer. Donc les véritables analyses sur les élections, elles pourront se faire qu'après le second tour, bien entendu. C'est là qu'on aura l'ensemble des éléments qui permettront de le faire. Mais là, à chaud, maintenant, ce qui se joue, c'est qui va diriger quelle mairie. C'est ça qui se joue maintenant. Donc tout le monde est dans cette interrogation-là. Et les enjeux sont parfois... c'est là qu'on a un rôle à jouer, sont parfois pas aussi évidents que ce qu'il paraîtrait. Par exemple, je sors de la région, mais si vous prenez la Seine-Saint-Denis, l'enjeu pour Claude Barthelone est beaucoup plus important pour son programme à lui et pour sa vision à lui et que ne le sont la gestion même des villes qui sont concernées. Donc c'est ça qui est intéressant à regarder pour nous. C'est ça qui est intéressant à voir comment les choses vont se jouer pour ça. Et par rapport au national, aujourd'hui, François Hollande est au G7. On est en train de parler de l'Ukraine. Donc c'est un autre problème qui est évoqué. On est en train de parler de l'union bancaire. Et puis ensuite, dans 3 mois, à Bruxelles, il faudra voir, puisque nous faisons partie de l'Union européenne et de la zone euro, si le budget de la France correspond à ce que la zone euro et ce que l'Europe a décidé pour se projeter. C'est ça les enjeux. Et donc on en est très loin quand on parle des municipales. Et pourtant, c'est la même chose.
C'est ce qui peut expliquer aussi peut-être ce que tu viens de dire, la dégringolade du PS dans ces élections-là. Parce qu'effectivement, je peux concevoir que le président de la République, dans son costume de président, doit faire face à d'autres obligations que tu d'énumérer, qui ont leur importance, qui ont une très grande importance, effectivement, pour l'avenir du pays et de tout le monde. Mais de l'autre côté, il y a la perception du citoyen qui est appelé à aller aux urnes, qui y va ou qui y va pas, qui vote de telle façon ou de telle autre façon. Oui, mais force est de constater que le Parti Socialiste, le fait que tous les candidats qui se sont promenés avec le logo, a priori, ont morflé.
Ah, c'est évident. Bon, alors, est-ce que ça correspond, comme disent les sondeurs, puisqu'ils estiment à 8-10% l'abstention de gauche, dite de gauche, donc ceux qui auraient voté socialiste? Est-ce que ça correspond ou pas? Visiblement, c'est plus important. C'est évident que le Parti Socialiste a pris un coup, qui recule. Bon, il suffit de prendre les grandes villes où les maires ne sont pas menacés. Lille, Nantes, c'est 21% de moins. Lille, 12% de moins. Lyon, il était passé au premier tour, il est à 46%. Enfin, toutes les grandes villes socialistes, c'est difficile. Et ils seront élus au second tour, visiblement. Il n'y a pas d'enjeu pour le second tour. Mais ça aura quand même été un sacré recul qui est dû... non pas à leur gestion, mais à la politique nationale et à ceux qui représentent comme soutien d'une politique nationale. Alors, je n'ai pas dit qu'Hollande, ça ne l'intéressait pas. Je pense qu'il est intéressé, mais il ne peut pas changer grand-chose. Il pourra relifter le gouvernement.
J'ai dit que la perception du citoyen, aujourd'hui...
Alors, elle est les deux, parce qu'en même temps, les sondages montrent, mais ça semble à peu près réaliste, que 4 électeurs sur 5, ceux qui vont voter, il faut toujours rappeler... 4 sur 5 votent avant tout pour une gestion municipale. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine appréhension de ce qu'est une gestion municipale, de ce que sont les compétences municipales. Parce qu'il y a quand même une partie de la population qui n'a pas été très informée par la presse de ce que sont les compétences municipales. On a vu très peu, lors de ces élections, les grandes enquêtes que menait la presse avant sur les comparatifs de gestion, par exemple. Les grandes compétences pour un citoyen, c'est s'il a des enfants, la plupart en ont, c'est l'école.
c'est avant tout les ça, crèches. C'est les plus grosses des, voilà, donc c'est toute l'éducation jusqu'à, et puis ensuite c'est la voirie, l'équipement, les services publics qui sont proposés, qui sont pas les nationaux. Bon, là-dessus, il n'y a pas une grosse différence en plus entre la droite et la gauche dans les grandes villes. Alors après, ça se joue différemment, bien sûr, mais selon la dimension de la ville. Mais dans les grandes villes, il n'y a pas une excessive différence. La différence se joue surtout sur le logement social et sur la politique sociale que mènent les villes. C'est là où il y a une grosse différence entre la gauche et la droite. Mais sur le reste, sur les équipements sportifs, sur les écoles même, s'il y a le problème des rythmes qui a joué.
Voilà. J'irai encore, il y a même des grandes villes, on peut penser à Bordeaux, où le maire Alain Juppé fait un, allez, on va dire un plébiscite quasiment, et pourtant ils ne sont pas 61% du MPiste sur Bordeaux, loin de là.
Comme à Montpellier, je ne pense pas que la gauche ait le même score au municipal que au national.
Donc il y a quand même une réflexion sur le local. Hein.
Bien entendu, mais c'est ce que je dis, oui, bien sûr.
Sur le local et sur... Alors, pas tant, vous avez raison, hein, le citoyen, il ne sait pas très bien ce que c'est la gestion d'une mairie. La plupart du temps, il...
Alors, ça dépend vraiment des couches sociales, ça dépend du niveau d'instruction, bien sûr. La plupart des citoyens sont quand même assez informés. Et s'intéresse, mais je pense que dans Montpellier, on le voit d'ailleurs dans ces phénomènes qu'il y a eu à Montpellier, à Marseille, de listes qui sont un peu différentes des partis, c'est parce qu'on est dans des...
Strasbourg aussi, je crois, hein. Il y a Strasbourg aussi.
Strasbourg, c'est un peu différent. Voilà. C'est parce que justement, il y a une partie des citoyens qui commencent à essayer de prendre en place, de prendre en charge la gestion municipale, du moins d'intervenir sur certains domaines.
Bon, bah, ça c'est bien, hein. On converse, on digresse, on diverge. Provoscopie, il fait rire, même par presque en oublier l'heure. Alors on va faire une petite pause musicale, un petit clin d'œil à notre journaliste. Un vieux, vieux morceau de Guy Béard, La Vérité.
Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. Encore ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ça. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté.
Ouais, ben voilà, le bon s'en est allé, tandis que la brute s'apprête à dégainer ses colts armés de mots épineux. Prenez garde à vous, monsieur le journaliste, quand vous croirez qu'il vous tend une perche, ce sera le plus souvent une pelle solférinienne destinée à creuser votre propre tombe. Et il en a intérêt, le bougre. Enfin, quoi qu'il en soit, ça va être à son tour de proboscoper notre invité divergent. Va-t-il le pointer ou le tirer ? Moi, ça devrait être à toi, la brute.
Se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Eh bien, la brute n'est pas là aujourd'hui, du moins la brute habituelle. Et oui, parce que la brute habituelle, tout retraitée qu'elle est, elle a été convoquée. Et dans convoquée, il y a foquée. Enfin, il y a con aussi. Ah ben bref. Ouais, la brute habituelle est le grand chef des négociateurs pour Jean-Pierre Moore, pour essayer de voir de quelle façon Jean-Pierre Moore, de 25%, pour essayer de ne pas tomber à 15%, voire à moins. Alors, il va négocier probablement peut-être avec la liste de Philippe Sorel, si l'aventure négociation est possible, voire peut-être avec la liste de Muriel Récillier, pour faire une petite fusion technique, voire, j'en sais rien, moi, avec Joseph Francis. Je vois mal qu'il négocie avec France Jamais du Front National, ça m'étonnerait. À voir, de toute façon, on le retrouvera lundi prochain, je pense qu'il pourra nous en expliquer un petit peu plus. Alors donc, pas de chronique de la brute, et on va passer directement, parce que ouais, nous, quand on n'a pas une brute, on en trouve une autre. Alors, c'est Olivier Notal qui...
Chroniqueur habituel de Divergence, qu'on a pris sur le trottoir là-bas.
Et voilà, dit, et dans la série sur le trottoir, j'ai rencontré un chroniqueur, etc. Va être donc à Olivier, avec dans le studio Jacques Moulin qui est avec nous, il est venu pour diverger. Et d'abord, une petite provoscopie, juste avant de démarrer. La presse française va mal, qu'elle crève.
Un petit commentaire.
Non, évidemment, je ne souhaite pas qu'elle crève.
Enfin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de journaux qui sont en grande difficulté.
Alors, la presse, c'est pas que les journaux.
Papier, hein. On parle de la presse papier. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes.
Je pense que les problèmes commencent à être plutôt derrière la presse en général, même derrière la presse écrite. Un des gros problèmes de la presse écrite, c'est qu'elle n'était. Il y a une de ses charmes d'ailleurs, c'était qu'elle était indépendante. Et que donc, elle n'avait pas les moyens financiers d'investir comme il faut investir maintenant dans la presse pour pouvoir tenir un journal, une radio ou une télé. Et comme la plupart des journaux maintenant sont adossés à des grands groupes industriels, du côté financier, du côté investissement, ça ira, je pense.
Excusez-moi de vous contredire, mais je pense que c'est un leurre, moi. S'adosser à ces grands groupes industriels, ça fait disparaître la presse. Je fais mon rôle de la brute, puisque vous m'avez évité. On pense aux journaux qui tiennent très bien, ce sont des gens qui ne sont pas adossés justement à ça. On pense au Canard Enchaîné, on pense à une revue même d'opinion comme Politis, qui arrive à tenir. Alors que des journaux comme Libération, en s'adossant avec ces gens qui sont supposés leur apporter du capital, eh bien, au bout du compte, on ne leur apporte pas du capital, on leur apporte du chômage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire ?
Alors, c'est difficile de comparer le Canard Enchaîné, où il n'y a même pas 10 journalistes, à un journal. C'est un hebdomadaire d'opinion qui est réduit à un nombre d'informations très limité. Dans le Monde, par exemple, vous avez environ 160 informations. Dans le Canard Enchaîné, vous en avez une quarantaine. Donc on est quand même... 160 articles, je parle. 160 sujets abordés. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes choses. C'est un hebdomadaire. C'est un hebdomadaire de révélation. Ça veut dire que l'essentiel du travail se fait non pas en investigation, mais en contact avec des hommes politiques, la plupart, qui ont intérêt à dégommer le voisin.
Voilà. Oui, mais j'insiste lourdement. Vous ne trouvez pas que depuis que ces grands groupes ont pris le pouvoir dans la presse, eh ben, on ne voit pas beaucoup un renouveau de la presse. On voit au contraire une diminution. C'est tout le temps des fermetures, c'est tout le temps des journalistes qui sont au chômage, etc. Et puis, c'est la presse immédiate, c'est la presse jetable, vous savez, avec ces grands groupes.
Oui, alors là, je pense qu'il faut... Dans la presse, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un produit commercial et qu'il y a des gens qui l'achètent ou qui sont consommateurs.
Ah non, il y a plein de gratuits.
Mais ils l'achètent par le biais des publicités. De toute façon, ils interviennent. Donc, il ne faut pas oublier ce que demande le public, parce que dans la presse, on dit la presse et puis on passe le monde, l'IB. Non, il y a aussi Voici, il y a aussi VSD, ça fait partie.
Ça fonctionne relativement bien.
Non, ça ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, Closer a été obligé de booster ses ventes de manière en franchissant des lignes qui n'étaient pas franchies par la presse habituellement. Donc, ça ne fonctionne pas bien. Le renouveau de la presse, il s'effectue sur certains domaines, par exemple, sur les apports technologiques qui changent fondamentalement le travail. Parce que le plus grand révélateur d'informations, c'est Edgar Snowden. Mmh. Voilà, et lui, ce n'est pas un journaliste. Et pourtant, c'est lui qui a apporté les informations et qui les a mises à la disposition du public. Donc là, tout est renouvelé, tout est en train de changer.
Ou c'est le citoyen mondial qui envoie des informations.
Mais la presse a change. Elle a un peu de mal parce qu'elle est très corporatiste, excessivement corporatiste. Donc, elle défend son statut, elle défend ses prérogatives. Il y a des cas ridicules qu'on pourrait citer, mais bon, on va passer vite. La presse a ce problème pour changer, comme n'importe quel d'ailleurs, des secteurs industriels qui sont appelés à des changements profonds. Mais ces changements, bien sûr, les générations jouent aussi, c'est-à-dire que les jeunes générations ne sont pas confrontées au même problème. Donc, les jeunes journalistes qui arrivent ont d'autres pratiques, ont déjà intégré tous les nouveaux outils et ont déjà intégré le fait que le citoyen est un apporteur d'informations au même titre qu'eux. Et puis, par contre, là où il n'y a pas de renouveau, je pense, c'est que la presse, qui est la presse de commentaires, d'analyse, d'opinion, elle reste encore très ancienne. Alors, on a peut-être un journal comme 21 qui a sorti de nouvelles manières de travailler, mais essentiellement, il faudrait des journaux qui soient des journaux qui, comme au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où l'information était d'un côté et l'analyse de l'autre, on revienne à des journaux qui soient des journaux d'analyse principalement. Mais pour ça, la presse qui fait ça n'a aucun moyen. C'est-à-dire, même le canard enchaîné est très faible.
Je ne sais pas que c'est l'histoire de la fable de La Fontaine, là, le chien et le loup, parce qu'il y en a un qui est bien nourri. Mais qui n'est pas obligatoirement libre.
Ouais.
L'autre, effectivement, qui est libre, mais amaigri et chassé.
Ouais.
Et c'est un petit peu ça le problème de la presse aujourd'hui. C'est-à-dire d'essayer d'équilibrer à la fois l'asservissement de l'argent avec la liberté.
L'avenir de la presse, c'est pas
de l'écrit.
Si on revient justement
au municipal. Tu disais tout à l'heure, en étant presque étonné, la presse générale ne s'est pas vraiment intéressée au municipal.
Si, elle s'est intéressée, mais d'une manière très politicienne, parce que la presse nationale a une proximité du pouvoir parisien, mais ça c'est la France, on est dans un état très jacobin, ça ne relève pas de l'incompétence. Non, ça relève de la France, qui est très obnubilée par son centralisme. Vous lisez encore sur Montpellier ce qui se passe aujourd'hui, ils sont pas au courant, tout simplement, parce que la presse nationale est à Paris et n'a plus les moyens d'avoir des antennes locales. Alors déjà, il y a ce problème-là. Et la presse régionale est monopolistique, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de concurrence pratiquement, un peu partout en France. Et alors là, elle est proche du pouvoir, donc elle est proche du maire.
Du président du conseil régional.
Bon, c'était assez, même à Montpellier, il suffisait de lire le journal pour voir qu'elle avait pris une position sans avouer sa position, si on prend le journal dominant.
Oui, c'était plutôt promo,
la Gazette de Montpellier, seul peut-être l'Héros du jour faisait légèrement exception, quoi.
Ils avaient un autre choix.
Oui, en regardant une ligne éditoriale qui n'était pas quand même très, très, très loin non plus.
On a essayé de faire un compte rendu, une présentation de la plus riche possible, quand même.
Mais après, bon, ce qui manque à la presse surtout, c'est des moyens d'investigation. Et les moyens d'investigation, ça veut dire des journalistes, ça veut dire des... Bon, on peut toujours sortir un scoop. Pour sortir un scoop, il faut mettre 4-5 journalistes qui travaillent 6 mois. Et qui a le moyen de faire ça maintenant? Même pas le Monde.
Même pas le Monde, c'est sûr. Bon, écoutez, si vous voulez bien, on va revenir à nos élections. Et si on revenait à nos élections locales, puisqu'elles n'intéressent pas le national, elles nous intéressent, nous, ici, à Montpellier. Donc, on en revient à cette élection un peu extraordinaire, là, qui est en train de se dérouler sous nos yeux ébahis. Hein, qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, quelle est l'analyse du journaliste à propos de ce résultat du premier tour?
Sur Montpellier.
Quand on voit la campagne, sur Montpellier, hein, ouais. La campagne, les sondages...
Et les résultats.
Qu'est-ce que tu en penses?
Mais d'abord, j'étais surpris par le... Bon, pas par le fait que Sorel monte, j'ai été surpris par son résultat, qui est un très bon résultat pour lui. Et puis maintenant, je suis surpris par la suite, parce qu'on a du mal à penser quelle va être la suite.
Ah oui, alors la suite, on pourra peut-être en parler tous ensemble, là. Qu'est-ce que...
On commence par...
Avant la suite. Le contexte, comme tu dis.
Il semble que le... Bon, d'abord, beaucoup de choix se sont faits à Paris. C'est ça qui est surprenant. Et visiblement, ça n'a pas été les bons choix.
Et visiblement, Hollande le reconnaîtrait dans les couloirs de l'Élysée.
Le Premier ministre est descendu voir Madame Mandrou, quand même. Hein. Oui. Jean-Marc Ayrault est descendu voir Madame
Mandrou. Ils ont écarté Mandrou, on peut comprendre.
Je ne sais pas s'il faut le comprendre.
Limite d'âge ?
On peut comprendre. La limite d'âge. Et puis, il y avait une. C'était, la différence entre elle et son prédécesseur était très flagrante. Au niveau de la qualité des interventions, mais même au niveau du programme. Il n'y a plus de programme. Hein. C'est le programme de Fraîche qui est toujours là. Hein. Bon, il va peut-être continuer d'ailleurs quelques années. J'étais d'ailleurs surpris d'entendre hier. Domergue
se référer,
oui, pratiquement. Ah, mais la référence, savez, comme à Marseille, savez, si après, comme...
À Montpellier, tout le monde se réfère à Fraîche, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est normal, même s'ils sont de droite, hein, c'est pas un problème.
À Marseille, le maire actuel a fait pareil avec Gaston Defer, donc c'était la référence.
En même temps, c'est vrai que Fraîche, il n'avait pas prévu de disparaître aussi rapidement, ouais. et Fraîche a fait ça pendant plus de 30 ans, il était visionnaire en quelque sorte, et puis il mettait en place des politiques pour les 10, 15, 20 ans qui viennent.
Oui, tout à fait.
Or, à la limite, pourquoi reprocher à Mandrou de n'avoir rien fait, puisqu'elle n'a fait que poursuivre où la politique était en place. C'est-à-dire, elle a fait la ligne 3 et 4 du tram, elle s'apprêtait à faire la ligne 5, Fraîche avait déjà anticipé, quoi. Et on pourrait même dire au niveau métropole, Fraîche avait anticipé, là, sur les 20 ans à venir, où la métropole de Montpellier devrait aller de 7 à Lunel. Oui, voire même à Nîmes et monter jusqu'à Alès.
Non, là, je ne veux pas revenir sur ce qu'il y avait avant, mais même y compris, si on se réfère à 2008, lorsque Madame Mandrou a été élue, à partir de ce moment-là, l'aspiration du Montpellierais, c'était de dire, ça va, maintenant, il y en a marre, hein.
On veut que ça se calme.
On voudrait quand même qu'il y ait une petite pause, ça va maintenant. Et donc, à la limite, elle, en quelque sorte, elle est allée dans ce sens-là. À savoir qu'elle a fini plus ou moins ce qui était en cours, sans pour autant, obligatoirement, partir sur d'autres projets. Quoi.
Et en même temps, Fraîche le disait suffisamment. Il avait mis des pantins à la mairie comme à l'aglo, c'est-à-dire Hélène Mandrou et Jean-Pierre Moore, qui comptaient largement. Manipulé, puisqu'il n'avait pas prévu de disparaître.
Alors, je pense, pense que quand vous avez des fortes personnalités, encore au plus, mais c'est le cas dans toutes les villes, même quand les personnalités ne sont pas très fortes, il y a le maire et puis un grand nombre d'agents électoraux. C'est-à-dire, en gros, vous avez le maire, 5-6 personnes autour, le cabinet, et puis la plupart des conseils municipaux, ils servent le rôle d'agents électoraux. C'est encore plus vrai dans les villes clientélistes. Si on prend un autre exemple d'une disparition soudaine, Marseille tombe bien. Quand Defer a disparu, il y avait autour de lui des barons assez incompétents pour gérer la ville, mais très compétents pour amener des voix. Et il a fallu élire quelqu'un, il y avait trop de compromis, il y avait trop de gens qui étaient poursuivis pour des affaires, donc c'était Marseille, le clientélisme jouait beaucoup. Donc ils ont choisi le plus compétent au niveau compétence pure, mais le plus inconnu aussi des Marseillais, Vigouroux, qui a été choisi donc, par l'équipe municipale pour être maire. Et lui, n'arrivant pas à se sortir du clientélisme, a constitué un cabinet de 54 personnes, ce qui est quand même assez extraordinaire.
Même pour une ville
tous
comme Marseille.
Venus tous des Parisiens, la plupart, et qui ont conçu un programme extraordinaire pour Marseille. Donc, tout au Méditerranée, ils ont conçu un programme extraordinaire pour Marseille. Mettre en œuvre un programme d'une telle ampleur, il faut une adhésion. Il faut une adhésion de la population. Et là-dessus, Vigouroux était incapable de le faire. Et il a pris aux élections suivantes, il a fait
8%.
C'est
Godin qui gagne.
Et c'est Godin il était complètement qui... laminé. Donc c'est le problème de Mandroux ou de Moore, c'est qu'ils ils n'ont pas la même capacité que Frèche à rassembler assez de monde pour pouvoir mettre en application un programme ambitieux.
Et puis à rassembler bien au-delà de son camp politique.
C'est ce que ça veut dire, bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Quand vous voulez transformer considérablement une ville comme l'a fait Frèche, il vous faut une adhésion politique importante. Et c'est là-dessus que, je pense, Mandroux péchait, parce qu'elle n'avait pas cette capacité à rassembler qu'avec Frèche ou à... Bon, voilà, maintenant, tout le monde se reconnaît dans Frèche. Dans Mandroux, personne ne se reconnaît.
Tous nos candidats ont souvent le mot Georges Frèche dans la bouche, même ceux qui ne sont pas de son camp politique, je ne dis pas de bêtises.
Jacques Domergue a même demandé à Anne Brissot, sa numéro 2, d'arrêter de taper sur Frèche. C'est pratiquement tout dit, quoi.
Alors, et cette élection, elle s'est passée comment quand même hein? C'est passé comment? On se retrouve dans un mouchoir? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il y a trois personnes qui se retrouvent dans un mouchoir. Le Front National qui a augmenté un peu, je crois, mais par rapport aux législatives, je ne sais pas s'ils ont beaucoup progressé.
En nombre de voix, quand même, relativement nombre de voix, le FN n'avait jamais dépassé les 7000 voix sur Montpellier. Ah, c'est vrai que la population a augmenté. Mais là, il dépasse les 10 000 voix.
Sur les législatives, comme ils avaient fait
6008, si ma mémoire est bonne. Donc,
il y a une progression.
Oui, une progression d'environ 3 000 voix. Bon, en même temps, la population montpelliéraine a augmenté aussi. Donc, il faut nuancer l'affaire. Mais il y a une certaine légère progression du Front National sur Montpellier. Quoi.
Oui, comme partout dans le Sud. Donc.
Oui, mais c'est pas énorme. C'est pas comparable.
Ça reste relativement marginal.
On peut se retrouver avec une quadrangulaire à Montpellier. Pour le moment.
C'est probable.
Montpellier, c'est politiquement, il est stable. Bon, avec cette remarque qu'a fait sur le Front National, Yves, mais indépendamment de ça, bon, la droite, ma foi, fait son score.
Elle fait en dessous de son score. Elle fait en dessous de son score. Elle fait beaucoup plus.
Parce que si on additionne Domergue et Francis, ça fait 27%. Et 27 plus 14 en gros du FN, ça fait 41. Ouais. La droite à Montpellier,
c'est 40. C'est compliqué d'additionner le FN.
Quand on dit qu'à Montpellier, c'est 60-40. 60 à gauche, 40 à droite. Grosso modo, on est dans le schéma.
C'est comme ça que je le vois. C'est qu'en fin de compte, ces élections, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est pas le Front National, c'est pas la droite qui restait stable. C'est tout simplement la gauche, qui, y compris, avait des primaires interminables au sein des partis socialistes, avec des dissensions au niveau, disons, des autres composantes de la gauche, qui ont créé une situation où, effectivement, il n'y avait pas...
Il n'y avait pas d'union possible.
Il n'y avait plus de repères. Parce que quand même, ce qu'on regarde, c'est que la force de Frèche, chaque fois Frèche, depuis 1977, il s'est toujours présenté aux élections avec une liste très homogène et très représentative de la gauche. Même y compris, il a eu fait au Parti communiste place.
Et quelques ouvertures à droite, même, il faisait au centre droit.
C'était quelque chose qui était. Il estimait qu'il y avait une cohérence, et c'était homogène. Là, le problème, c'est que c'est la gauche qui, en quelque sorte, sur Montpellier, je dis, s'est mise quand même un petit peu toute seule en difficulté.
Elle a implosé, on peut dire, à partir du moment où il y a eu les primaires du Parti Socialiste, où M. Sorel, entre autres, et Mme Mandroux ont refusé de participer à ces primaires, pour rappeler dans le contexte, et pour désigner le candidat à la mairie de Montpellier. Donc déjà, il y en avait deux qui voulaient pas... Qui
ça refusaient a duré pendant près de deux ans pour effectivement savoir comment elles allaient se dérouler, ces primaires.
Il y a Michael Delafosse qui a quand même fait un score très honorable à ces primaires. Donc tout ça fait un climat, une gauche un petit peu éclatée. Puis n'ayons pas peur de le dire aussi, cette gauche montpelliéraine, elle a quelques casseroles qui ont couru derrière elle. Hein, donc ces casseroles n'ont pas fait de bien non plus.
Au niveau du PS, du moins de la fédération du PS avec Navarro.
Oui, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire à demi-mot. Donc on se retrouve devant ce cas de figure où un dissident, donc quelqu'un qui a été exclu du PS, est en possibilité de remporter cette élection.
Je dirais que c'est ce qui se passe, si tu veux, souvent à la table de notaire. lorsqu'il y a un décès,
l'héritage.
On ouvre le testament. Et à partir de ce moment-là, les gens qui s'embrassaient sur la bouche avant, la famille, à partir du moment où le testament est ouvert, à partir de ce moment-là, bon, ça, quand même, c'est souvent là qu'il y a les fâcheries familiales. Hein.
Bon, bah, quoi qu'il en soit, trop d'épines, tu l'arroses, ça c'est clair. Enfin, surtout, ne mélangeons pas tout. Laissons un instant traîner nos oreilles dans quelques divertissements sonores. On va écouter un petit morceau, là, un vieux morceau qui donne 65, de Jean-Pierre Ferland, je suppose que vous connaissez. Ça s'appelle « Les journalistes ».
Très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour. Tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont autant d'élan moral qu'ils ont de page à leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal, tout dépend de leur avantage. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations. Vous coupant deux ou trois tronçons, ils vous tuent, puis ils vous encensent. Ils racontent ce qu'ils ont su d'un autre qui a bien connu, un autre qui a très bien vu. Quand ils n'ont rien su, ils inventent. Quand ils ont lu Tintin Brévet, quand ils ont écrit quatre vers, on les consacre reporters dans la mode ou la politique. Quand ils n'ont assez d'idées, on les met aux chiens écrasés. Quand il n'y en a plus, ils sont mutés. On les met au rang des critiques. As-tu vu mon papier tout frais? C'est presque du papier monnaie. Ce que tu connais, Bossuet, tout à fait moi la légende. C'est pas du moussi, du brutal. Et puis ça fera original. J'avais mal à mon piédestal. Quand on monte, lui, il faut descendre. Pour les comprendre, il faut les voir. Le moins souvent, mais certains soirs. Surtout quand ils jouent les plus soirs. Aux soirées des grandes premières. Le bras pendant les plus bons coups. Le programme sur les genoux. Ils feignent de comprendre tout. Mais sans lui, comme au cimetière. Et leur critique terminée. Voir se corriger, mais en toute objectivité, comme s'ils avaient payé leur place. Et le lendemain au matin, vous la trouverez dans un coin, une à la deux, mais deux fois rien. Question de goût, question d'espace. Quand on sait tout, on ne sait rien, je sais peu, mais je le sais bien. J'ai appris dans un quotidien toutes les lois fondamentales. J'ai appris ce que je savais. Que moins c'est faux, le plus c'est vrai. Que plus c'est gros, plus c'est épais. Que moins c'est blanc, le plus c'est sale. Quand vous écouterez ma chanson, ne sautez pas aux conclusions. Sachez que vous faites exception. Et que gagner sa vie, c'est triste. Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès, quand je deviendrai journaliste.
Mais quoi qu'il en soit, la brute est partie rejoindre le bon dans les entrailles radiophoniques de Divergence. Et voilà le truand qui pointe sa corde pour tordre le cou aux idées reçues. Le truand est un voyou. Il fragmentalise à longueur de phrase. Il tord le présent en jouant du passé pour mieux se fondre dans un avenir incertain. Enfin bref, tel une ombre, il se grise en côtoyant les éminences. C'est une sale bête, un loup solitaire. Alors on va l'écouter.
Le monde se divise en deux, mon ami.
ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. Oui, seulement celui qui a la corde au cou, c'est moi. C'est pourquoi la prochaine fois, je veux plus de la moitié.
Oui, tu as la corde au cou, mais moi, je tire. Et si tu me rognes mon pourcentage, il peut arriver que je rate mon coup.
La République, issue de nos états de droit, a été fondée lors du siècle des Lumières sur la base d'un contrat social qui devait normaliser le vivre ensemble. Modèle d'intégration de ce que j'appelle le monde 2, ou deuxième monde. Celui qui fait que nous cohabitons pacifiquement avec nos voisins. Il a peu à peu apaisé les relations belliqueuses villageoises et intervillageoises. Ainsi passa le 19e siècle, ainsi trépassa le 20e siècle, malgré ses excès mondialisés. Mais bon an mal an, ce modèle survécut sur fond de démocratie indirecte, c'est-à-dire de délégation des pouvoirs auprès d'une élite, plébiscitée lors des consultations électorales. La norme s'imposait par une courroie de transmission qui avait remplacé l'Église, l'école. Celle de Jules Ferry avec sa corde sentence moralisatrice et matinale, dispensée par nos hussards noirs de la République, les instituteurs, autrement appelés les maîtres. Ils réussirent tant et si bien que nos ancêtres imaginèrent civiliser le monde à coups de droit de l'hommisme. Mais nos pères et nos grands-pères, gaulois et batailleurs, jouèrent au va-t-en-guerre comme en 14, comme en 40, en Indochine, comme en Algérie. Et la génération des baby-boomers soudain en 68 de leur dire « Stop ! Votre éducation matinée d'instruction dans les poubelles de l'histoire. Votre contrat social qui a pour finalité une société fondée sur la consommation, ras-le-bol ! Et de fredonner « Et moi, et moi, et moi ! » De se mettre à commencer à refuser votre citoyenneté agressive et de la remplacer petit à petit par l'individualisme. À mort le citoyen, vive l'individu. Merde à l'égalité, vive la liberté. Et les libertaires de devenir même libertariens, rien que pour emmerder. Concrètement, ça a donné la désaffection des urnes, la non-inscription, l'abstention, la revendication d'un vote nul, voire inutile, et de promouvoir la refondation d'une démocratie de proximité, fédéraliste, locale, proudhonienne. Et ça a donné quoi ? Une France championne du monde associatif. Aucun pays au monde ne nous arrive à la cheville en la matière. La fraternité perdure, quoi qu'il en soit, mais ailleurs et autrement. Alors n'est-il pas venu le temps d'achever cette république dévoyée et de laisser 100 écoles rivaliser pour que 100 fleurs s'épanouissent ? Le grand Georges, dans sa prime jeunesse, avait déjà raison et avec lui reprenons ensemble. Vive la grande révolution culturelle prolétarienne et proclamons la France zone des tempêtes. Décidément, le truand est un voyou. Dans les ruelles agglomérées, le bon, la brute et le truand ont traîné leurs guêtres et de ci de là, ils parviennent chaque semaine à dénicher quelques grenouilles prêtes à être disséquées à l'heure du déjeuner. Friand de ses petits batraciens, le bon, la brute et le truand s'efforcent de varier les plaisirs. Une semaine, une grenouille à ventre vert. Une autre semaine, une grenouille à ventre rouge ou bleu. Et cette semaine, nous avons trouvé la fameuse grenouille à ventre dur. Elle répond quand elle coasse au nom de Jacques Moulin. Enfin, trêve de plaisanterie, revenons au sérieux de la chose et voyons ce que ça donne quand on tente de se mêler de ceux qui ne nous regardent pas, même si ça nous intéresse. Allez, une petite provoscopie pour démarrer. Y a-t-il des limites à la liberté de la presse ?
Non, il n'y a pas. La limite, c'est la liberté de l'individu. Mais il n'y a pas de limite à la liberté de la presse.
Mais de l'individu, le journaliste ou de l'individu ?
De l'individu, le citoyen.
Le citoyen.
Pour reprendre le débat tout à l'heure, oui.
Voilà, c'est la seule, il y a une justice pour ça.
Il y a une justice pour ça, oui. Elle est très, la France est très en retard sur beaucoup de lois et en avance sur d'autres, puisqu'on est un des rares pays qui, depuis quelques mois, a une loi qui protège les lanceurs d'alerte.
Oui. Ouais, ça méritait peut-être d'être développé pour nos auditeurs, ça.
Et à l'heure actuelle, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui, dans son... si je prends un exemple complètement différent, c'est... enfin, extrême... les grands nombres de fonctionnaires français sous l'occupation ont dit « mais nous, on ne faisait que faire ce qui était prévu par la loi ». Alors maintenant, il est possible, quand la loi ne correspond pas aux engagements de la France, notamment vis-à-vis des droits de l'homme au niveau international, un fonctionnaire a le droit de se dénoncer ce qui s'est fait. Et
il doit être protégé.
Non seulement il est protégé, mais c'est aussi dans le privé, ce qui n'est pas le cas des anciens lanceurs d'alerte. On a le cas de de Virginie Gibault, par exemple, qui, Stéphanie pardon, Gibault, qui travaillait chez, la Banque Suisse,
l'USB,
la Banque Suisse, et qui s'est retrouvée à la porte, avec des indemnités certes, parce qu'ils ont respecté la loi, parce qu'elle avait dénoncé l'extraordinaire fraude fiscale organisée par USB en France vers la Suisse.
Oui, et par donc des contribuables français qui cachaient leur argent là-bas, et donc elle avait simplement donné une
liste. Non seulement les contribuables qui cachaient, mais la banque qui avait organisé ça.
Bien sûr. Ouais. Et donc là, elle avait été virée. Maintenant, ça serait en France, ça serait plus possible.
Alors, il y a nos protections, mais c'est un cas. Sur d'autres cas, c'est plus limite. Bon, on a eu du mal à obtenir le secret des sources. Pour les journalistes, les magistrats les remettent en cause systématiquement.
Avec les téléphones, par exemple, portables, avec les fadettes.
Oui, avec tout. Avec tout. Il suffit
que... Bon, Monsieur Jacques, on va revenir un instant sur les résultats nationaux et puis sur les grandes villes. Quelle est ton analyse, notamment à propos de Paris ? Parce que alors, on a dit NKM, que c'est ce qu'on m'a risé. Bon, elle arrive en tête, légèrement en tête par rapport à Anne Hidalgo. Mais, quoi qu'elle soit en tête, elle est en perte au niveau des sièges. Donc, elle a gagné, mais elle a gagné d'avoir perdu.
Paris, c'est Paris, Lyon et Marseille.
C'est pas évident, ça, comme truc.
Paris, Lyon, Marseille sont compliqués, puisque d'abord, c'est Defferre qui avait conçu ça, donc ça pouvait pas être simple. On est élu par arrondissement, donc ce qui compte, c'est le nombre de conseillers municipaux par arrondissement qui vont représenter.
Un peu comme les présidentielles américaines, d'une certaine façon. Avec des grands électeurs.
Avec beaucoup d'électeurs quand même, plus direct. Mais,
un peu comme
l'agglo. C'est un peu différent. Alors,
le nombre d'élus qui s'ajoutent et qui.
Alors par contre, on prend Paris, NKM fait 36 et quelques pourcents des voix,
donc elle est devant en voix.
Mais comme Delanoë avait été élu en étant minoritaire.
C'est ça, oui, en 2001.
Defferre.
La première fois.
À Marseille.
Defferre aussi. Et donc là, ce qui compte, c'est vraiment les élections par arrondissement à Paris, puisque l'arrondissement correspond au secteur. Marseille, il y a 8 secteurs sur 16 arrondissements. À Paris, ce sont des mairies d'arrondissement, donc il y a 20 élections. Dans ces 20 élections, il y a bien sûr les plus importantes, ce sont celles où il y a le plus de nombre de
votants.
La plus grande, la population la plus importante, donc le plus de nombre de conseillers. Et la seconde chose qu'on regarde, c'est les endroits où les têtes de liste se présentent.
Et là, ça ne va pas très
alors
bien.
Alors là, du tout, ça ne va pas très bien pour NKM, puisqu'elle a été largement battue.
Non plus pour Anne Hidalgo, parce qu'Anne Hidalgo, dans le 15e, elle n'est pas arrivée en tête.
Elle a baissé par rapport à... Ouais. Elle subit le même érosion que tous les candidats socialistes. Mais dans le même temps, pour le moment, à regarder arithmétiquement, sauf s'il y avait de grosses surprises, elle a des chances de passer, ce qui est surprenant, parce que Paris est quand même une ville un peu à part. Ah oui. Une ville, par exemple, où le Front National fait très très peu. Ville où l'abstention n'est pas très forte. Une ville où la population, évidemment, a un niveau de vie plutôt riche. Élevé, un niveau culturel plutôt élevé, où les gens interviennent beaucoup, énormément sur la vie municipale. S'il se passe quelque chose qui ne va pas dans une école, tout de suite, les parents d'élèves vont intervenir. S'il se passe quelque chose qui ne va pas à la piscine, ils interviennent tout de suite. Donc il y a une forte pression des gens. Mais là, il faut dire aussi que, d'abord, il y avait eu une gestion de droite, alors une gestion chiracienne, puisque Chirac a été le premier élu au suffrage universel, si je peux dire.
En 77, oui.
En 77, et tout juste. Et ça l'a servi, évidemment, à prendre d'abord la tête du parti, la direction du parti, puis la présidence de la République, et à installer une espèce d'État dans la ville. Avec les conséquences qu'on sait et le courage qu'a eu Alain Juppé d'ailleurs d'assumer sans rien dire les désastres de cette gestion, puisque c'est lui qui a été condamné et que Chirac maintenant, qui devrait être encore poursuivi, ne l'est plus à raison de sa maladie.
Et les Tibéri aussi.
Ensuite vient Tibéri qui a été un désastre clientéliste, un désastre de gestion. Donc la différence entre Delanoë et Tibéri est gigantesque pour les Parisiens. Donc ils ont vu se reconstruire des logements sociaux, les crèches ont été développées, les écoles ont été refaites, la piétonnisation a été entamée, les transports en public ont été augmentés puisque le tramway a été construit. Donc il y a un acquis quand même très fort d'Hidalgo par rapport à la position de Delanoë qui en plus n'a jamais cumulé les mandats.
Ah oui,
qui a abandonné son poste alors qu'il pouvait très bien se représenter et être réélu, probablement. Il a préféré... Donc il y a quand même une image de probité, d'honnêteté, de gestion de la Noé qui profite à Hidalgo, qui l'a suivi sur la même voie.
Donc l'élection n'est pas encore jouée, mais quand même, elle semblerait favorable à Hidalgo.
Elle est nettement favorable à Hidalgo, oui. Mais c'est pas joué, bien sûr, c'est jamais joué.
Il y a trois villes que j'aimerais bien qu'on compare. C'est Bordeaux, Lyon et Lille. Pourquoi ? Parce que Bordeaux, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, depuis 1995, a complètement changé Bordeaux. Chaban l'avait laissé dans un état lamentable. Lyon, Colomb, c'est à peu près la même chose. Lyon était dans un état lamentable. Aubry, à Lille, à peu près la même chose. Et donc, ces trois villes sont devenues ou redevenues de belles villes. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça qui explique le succès de ces trois maires-là, au même titre que Fraîche quand il était sur Montpellier? Autrement dit, quand il y a un type charismatique qui fait du bon boulot et tout, il dépasse tous les clivages, quoi.
Oui, bien sûr, on pourrait multiplier les exemples. Il y a Nancy, il y a Reims, il y a beaucoup de villes en France qui ont été refaites.
Oui, Rossignol ne se présente pas. Je parle
de la transformation de la ville. Oui. Et tout simplement, les villes sont devenues des villes du 21e siècle, alors qu'elles étaient des villes du 20e siècle. Je pense qu'en plus, Alain Juppé jouit de quelque chose d'autre, de deux éléments en plus. L'homogénéité de la population bordelaise, qui est quand même assez importante, sur Bordeaux intramuros. Mmh. Et le phénomène nouveau, surtout, c'est qu'il gagne la CUP, c'est-à-dire l'agglomération, qui était jusqu'à présent socialiste, et qui maintenant est pratiquement gagnée pour l'UMP. Mmh. Et je pense aussi qu'il jouit de son aura nationale dans les affaires de l'UMP, à l'intérieur de l'UMP, puisque c'est celui qui apparaît le plus propre, bien qu'il ait été condamné, ce qui est assez paradoxal.
C'est un paradoxe.
C'est un de ceux qui apparaît le moins affairiste dans l'entourage de l'ancien président Sarkozy.
Celui qui s'oppose aussi au Front National de façon peut-être plus claire que certains.
Alors celui qui s'y oppose aussi de façon nette, plus comme clair, le faisait Chirac d'ailleurs, oui, c'est plutôt le...
Il voilà. Y en a un dont j'aimerais bien qu'on dise deux mots, le Béarnais à Pau.
Ah oui.
Ah ben, le Béarnais.
Il était mort, il était enterré.
Il pleure d'émotion.
Résurrection, oui, il en a même les larmes aux yeux, le garçon.
Alors il doit beaucoup à Alain Juppé aussi, parce que Alain Juppé s'est tout de suite prononcé pour lui, l'a soutenu, a enlevé tous les obstacles qu'il pouvait y avoir. Et je ne suis pas sûr que du côté de l'Élysée, il n'ait pas eu quelques appuis non plus. En tout cas, c'est ce qu'a déploré la candidate socialiste.
Plusieurs vies en politique, quoi, parce que Ardéo...
Alors, par contre, quand il rêvait d'être président de la République, il est maire de Pau, ce n'est pas tout à fait la même
chose. Ah bon ouais, bah ça, c'est le côté béarnais. Maintenant, avec son blanc panache, ça va peut-être...
Il y en a un qui est parti de Pau pour arriver à la tête de l'État.
Bon. Et certains Henri.
J'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu de frontières. Et de frontières. Pas les frontières telles qu'on les voit d'habitude, mais par exemple, quelles sont les frontières du Front National, d'une part, et quelles sont les frontières de l'abstention? C'est-à-dire que le Front National, il peut aller jusqu'où? Je veux dire, là, en pourcentage, en voix, etc. Et de la même façon, pour les abstentionnistes, mais on va d'abord commencer peut-être par les abstentionnistes. On disait des abstentionnistes qu'ils n'avaient qu'un seul droit, c'était de fermer leur gueule. Est-ce que on peut continuer à le dire, ça?
Ouais, entre les deux tours, non. Après le deuxième tour, je ne sais pas. Parce qu'il y aura une différence, c'est que ceux qui gouvernent, ils gouvernent.
Enfin, oui, mais avec le fait qu'arrive un moment quand ils deviennent, c'est le cas à Montpellier, du moins pour le premier tour, majoritaires. Ils sont 51 et quelques pourcents, donc ils sont majoritaires. C'est pas de dire que c'est le plus grand parti à Montpellier, ils sont la majorité. Or, je sais pas, on m'a appris que la démocratie, c'était le règne du nombre, c'est-à-dire la majorité. Alors, ça repose effectivement à ceux qui disent « Non, la démocratie, c'est le règne du droit ». Bon, effectivement, là, aujourd'hui, c'est vraiment le règne du droit et pas le règne du nombre. C'est là où ça, d'ailleurs, ça amuse beaucoup Poutine, cette affaire-là. À propos de l'Ukraine, c'est une autre histoire. Bon, justement, est-ce qu'on va pouvoir continuer, ad vitam aeternam, de dire les abstentionnistes, on s'en fout, les comptes par derrière, question de compter les bulletins blancs, de compter les bulletins nuls. Qu'est-ce que t'en penses ?
Compliqué.
Je pense qu'on va connaître beaucoup d'élections comme on connaît aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup de mal. Les Français, le personnel politique, bien sûr, mais ils reflètent les Français exactement sur ce point-là. On a du mal à comprendre que la France n'est plus un empire, que la France régresse forcément dans le niveau mondial, dans l'échelle mondiale, puisque les pays émergents ont de plus en plus de place. La France a toujours un poste à l'ONU, dans le Conseil de sécurité, donc les cinq qui ont le droit de veto. On se demande pourquoi, si ce n'est l'arme nucléaire.
Parce que
l'arme nucléaire. Mais évidemment, si on raisonne comme semblent raisonner les Français, la mondialisation, d'accord, mais à condition que tout le monde soit à notre niveau. Et ça, ça semble un peu difficile. Et donc forcément, pendant quelques années, vu qu'on n'en parle pas...
Là, on voit bien Jacques Moulin, l'adepte de Pascal Lamy.
Le Jacques, comme Pascal je Lamy, le connais, je passe pas. D'une élection à l'autre.
Et il est... Non, mais c'est exact. À l'heure actuelle, on ne peut pas répondre aux gens sur l'emploi, on ne peut pas répondre aux gens sur le pouvoir d'achat, parce qu'on ne parle pas de ça. Et c'est ça le problème fondamental.
C'est ce qui arrive là. C'est l'Europe, ça.
C'est pas que l'Europe, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que tant que tout le monde est content d'acheter...
L'Europe de la mondialisation, elle peut avoir une attitude, elle peut avoir une autre.
Les Français voudraient rêvent de la situation de leurs parents, c'est-à-dire pendant les 30 glorieuses, oui, une augmentation considérable du niveau de vie, une garantie de l'emploi.
L'ascenseur social.
On rentrait en emploi. Oui, et en plus, une garantie de l'emploi. Et on rentrait dans une entreprise et on est resté toute sa vie. Ouais. Voilà. Or, en même temps, ils veulent acheter des t-shirts
moins chers. Oui.
Ils veulent avoir des écrans plats de dernière catégorie. Ils veulent, tout ça baisse, bien sûr, mais les pays, on est dans une autre ère industrielle. Mmh. Et qui plus est, tout le monde a fait le choix d'économie de marché.
Ah, pour le moment, oui, c'est sûr.
Voilà, donc tous ceux, même les communistes qui étaient contre l'économie de marché, ils sont pour quoi maintenant ?
On va bientôt, oui, dans les semaines qui viennent, vu l'élection européenne, revenir largement sur ces questions-là. Je voudrais revenir.
Non, je ne pense pas.
Je voudrais qu'on revienne, moi, au vote, là, au vote municipal.
Je pense que l'abstention a encore beaucoup de temps pour répondre à ta question. Je pense que l'abstention et le Front National ont encore de belles heures devant eux parce que ces questions ne sont pas abordées et que les gens ne vont pas comment
faire. Mais là, pour les municipales, au niveau de l'abstention, est-ce qu'une partie de l'abstention ne viendrait pas du fait de cette usine à gaz où on a voté en même temps pour les conseillers municipaux, en même temps pour les conseillers intercommunaux, sur liste bloquée Est-ce que ça n'a pas perturbé quantité de gens ? Parce qu'on le voit, j'ai pas regardé commune par commune, mais ce serait intéressant à regarder surtout pour les villages, où on ne pouvait plus rayer, des choses comme ça, du moins pour ceux de plus de 1000 habitants. Ouais. Est-ce que le bulletin, le score du moins des bulletins nul, est-ce qu'il ne s'explique pas en partie par ça ?
Alors, l'augmentation du nombre de bulletins nuls, oui, je pense en partie qu'il est dû à ça. Mais il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur ça. Est-ce qu'on fait deux listes séparées, deux bulletins de vote séparés, pour la ville et pour la communauté ou l'agglomération ? Et les législateurs ont pensé que ça serait très difficile à expliquer. C'est-à-dire qu'un grand nombre de gens ont du mal à comprendre la différence qu'il y a.
Il y a eu des trucs quand même curieux. Pour le premier tour, ça va être pareil pour le deuxième tour. Bon, les bulletins, c'était du format A4. Hein, donc, une feuille normale. Qu'il fallait plier en 12 pour réussir à faire rentrer dans la petite enveloppe. Or, quand on la mettait dans la petite enveloppe ne fermait plus. Et étant donné que les bulletins étaient de couleur... par exemple, bulletin Sorel, il était couleur orange. Quand on le mettait au moment de l'urne, le scrutateur qui était là voyait nécessairement pour qui on votait. S'il avait bien mémorisé les couleurs, il y a un truc, ça colle pas un peu cette histoire-là, il y a problème. Bon.
Il faut regarder les enveloppes.
On va pas passer au vote électronique, peut-être,
Un mot de ton analyse. Sur, quand même, globalement, à peu près partout en France, mais notamment à Montpellier, le fiasco du Front de Gauche comparé au Front National, c'est-à-dire, quelque part, ce vote protestataire qui fonctionne parfaitement bien pour le Front National et que pour le Front de Gauche,
il faut déjà comprendre ce que c'est le Front de Gauche. Parce que j'ai un peu de mal, en tout cas. Hein, parce qu'il y a le Parti communiste plus quelque chose. À part Mélenchon, je ne sais pas exactement qui c'est.
Le Parti de Gauche.
Il y a surtout Mélenchon, quoi, voilà, en plus. Or, dans les élections municipales, le Parti communiste a une tradition d'union avec le Parti socialiste qui fait qu'elle a été suivie dans la plupart des cas. Alors, on ne comprend pas pourquoi, dans d'autres cas, ils ne l'ont pas suivie, puisqu'ils géraient ensemble. Bon, ça, c'est assez incompréhensible à Marseille, par exemple. Ils gèrent depuis des années la plupart des collectivités.
Si je peux me permettre, le Front... il y a eu 600 listes du Front National sur des régions ciblées, on en a parlé tout à l'heure. Mais le Front de Gauche, en tant que liste autonome, ou avec les Verts, c'est-à-dire en distinction du parti gouvernemental, il n'y a eu qu'une centaine de listes en France, sur 36 700 communes. Et sur ces listes-là, les endroits, je le disais tout à l'heure en aparté, il y a Grenoble, où il est arrivé en tête. Il est arrivé second à 7, avec François Liberti. Il y a une dizaine de villes...
Agrabel, presque élu au premier tour. Élu.
Mais pour rester sur les villes les plus importantes, il y a une quinzaine de villes où il a fait plus de 15%. Et la majorité des listes ont fait entre 6 et 8.
Comme à Montpellier.
Comme à Montpellier. Et or, on sait pertinemment qu'effectivement, ce que tu dis, il y a eu des dissensions entre le Parti communiste et justement le Front de Gauche, comme ça a été le cas à Montpellier.
Montpellier, entre les élus communistes aperçu, et le Parti communiste.
Ce qui veut dire que lorsque le Parti la liste Front de Gauche a été séparée comme à Montpellier, à partir de ce moment-là, elle a eu une perte d'audience. Lorsqu'effectivement, elle a eu sa liste autonome, elle a montré qu'elle était capable quand même, quelque part, selon les endroits, de faire des scores. Et donc c'est pour cette raison que, bon, c'est tellement partiel, parce que 100 listes sur 3000... Ouais,
36 000.
Sur 36 000, bon, c'est...
Et si on termine avec le Front National, Marine Le Pen, elle a quand même inventé un truc assez rigolo, le Rassemblement Bleu Marine. C'est plus Front National. D'ailleurs, Ménard s'en sert, Collard aussi. Et donc, est-ce que ce Rassemblement Bleu Marine n'est pas un facteur clé d'explication de l'augmentation des scores du FN? Parce qu'évidemment, quand il s'agit d'additionner, on additionne FN plus Rassemblement Bleu Marine. Est-ce que ça ne joue pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler, quelque part, d'un vote d'adhésion pour le Rassemblement Bleu Marine?
Alors, c'est, encore une fois, là, je pense que c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il faudra des analyses sociologiques beaucoup plus poussées. Ce qui est certain, c'est que le Front National a changé. Qu'il soit devenu un parti, qu'on ait fini avec la France bipolaire, comme dit Marine Le Pen, j'en doute un peu plus, parce que d'abord, il n'est pas en charge des affaires. Et c'est quand même ce qui fait un parti. Or, il n'est en charge d'aucune affaire, et comme tu le rappelais tout à l'heure pour Hénin Beaumont, quand on leur demande ce qu'ils vont faire, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Donc on est quand même dans un... on n'est pas encore dans trois partis. Maintenant que ça se profile, c'est possible parce qu'ils ont un professionnalisme beaucoup plus important que n'avaient leurs parents, si je veux dire.
Qui ont géré quelques villes très mal.
Qui ont eu plus que très mal. C'est une véritable catastrophe. Toulon, Orange, Vitrolles...
Oui, bon, en général, ils n'ont pas été réélus, d'ailleurs.
Ils n'ont pas été réélus. Puis alors, le clientélisme, le népotisme et les affaires étaient encore plus développés qu'ailleurs. Donc je pense qu'il y a un renouveau. D'abord, ils ont des cadres nouveaux, plus performants, et une communication aussi qui est beaucoup plus performante. Donc un professionnalisme dans l'action politique, mais après, il faut savoir, il faut gérer les affaires. Alors après, évidemment, la grande question historique, c'est est-ce qu'on évolue vers un parti qui va s'allier avec la droite, qui va être un second parti de droite, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, s'ils veulent avoir des sièges, c'est ce qu'il faudra qu'ils fassent.
De droite
dure,
une
partie de l'UMP était favorable à ça, on le sait, Buisson notamment, enfin, une partie qui était venue chez eux d'ailleurs. Et puis, là, pour le moment, l'UMP est contre, et la distinction, c'est toujours cette capacité à gérer les affaires dans l'intérêt général.
Si on termine, parce que là, on arrive pratiquement au terme là, de l'émission, Montpellier d'un côté, l'agglo de l'autre. On commence à de plus en plus entendre dire qu'il y aurait une éventualité, une possibilité d'avoir dimanche prochain un maire de gauche, alors peu importe, Moore ou Sorel, et d'avoir dans la semaine qui suit un président d'agglo qui serait de droite. Donc là, ce ne serait pas unique en France, tu l'as rappelé pour Bordeaux, c'était le cas à Bordeaux.
Marseille,
mais là ça changerait tout pour Montpellier, parce que ça, j'ai jamais eu l'habitude à Montpellier de quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas...
C'est une éventualité, pas une certitude.
Non, c'est une... Mais avant, ça n'avait jamais été une éventualité, quoi. Là, il y a cette éventualité. De la même façon qu'on voit, Moore était le maire de Montpellier, c'était sûr, c'était certain, c'était gagné. Quand on voit les titres aujourd'hui de Midi Libre, de Direct Montpellier Plus, etc., c'est Moore en difficulté, etc.
Rien n'est joué, rien n'est joué.
Il est évident, ouais. Moi, j'ai envie de vous interroger, un peu de changer le rôle, oui. Mais c'est sur Montpellier, je ne connais pas aussi bien la situation que vous. D'évidence, il y a trois possibilités qui demeurent jusqu'à ce jour. L'intérêt de tout le monde, ça serait que ce soit clarifié le plus vite possible.
D'ici mardi soir, ce sera.
Oui, même avant mardi soir. Parce que je pense qu'il va falloir mener très vite une campagne auprès des gens, pour que les gens comprennent ce qui se passe.
Ça fait quelque chose.
Si toutes les listes se maintiennent, il faut aller encore plus vite. Et alors là, par contre, je pense, s'il faut...
ce qui est le plus probable.
Ce qui est le plus probable.
Quatre listes.
Y a, sur les quatre listes, il y en a deux qui, visiblement, et les émissions hier l'ont confirmé, pensent qu'ils ne seront jamais maires, c'est Domergue et Jamais.
Voilà. Jamais.
Donc c'est un combat.
Quoique Domergue... Quoique de Domergue...
Tel qu'il s'est affirmé hier, il n'est vraiment pas affirmé comme un maire. Hein, c'est-à-dire que tout le monde comprend que...
En chef de l'opposition, voilà. Et puis que...
Ça lui convient bien, et puis voilà. Donc le combat, ça va être Sorel Mour. C'est ça qui risque de se présenter au second tour.
C'est
combat
Sorel
Mour. Le troisième à la ronde peut tirer les marrons du feu. Si effectivement, il y a une égalisation...
Peu probable.
Des scores entre Jean-Pierre Mour et
en tout cas, ce qui serait...
Il y a quand même la menace... que pour quelques voix, effectivement...
Ça va jouer peut-être dans un mouchoir de poche.
Je pense quand même qu'il va y avoir un débat. Si les listes se maintiennent, tout le débat va se porter entre Sorel et Mour.
Oui,
entre un socialisme qui est le socialisme traditionnel d'appareil et quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça qui va jouer, ce qui va créer une dynamique.
Oui. Bon, c'est pas tout ça, mais les leurs, le bon, la brute et le truand se sont acquittés de leur diatribe. Il va être temps de nous dire adieu, adieu, au plaisir de se revoir. Monsieur le journaliste, cher grenouille à ventre dur, il est temps de conclure cette émission. Remerciements et salutations à la technique réalisée par Bruno Bertrand, sachant que c'est toujours lui qui conçoit l'intégralité de l'habillage sonore de l'émission, et que quand il n'est pas là,
rien ne
marche. Il n'est pas là, voilà. Et qu'on préfère nettement quand il est là. Lundi prochain, le jeu est ouvert, car au-delà des municipales auront lieu les élections européennes. Je sais, tout le monde s'en fout. Et pourtant, ces élections détermineront plus sûrement que les élections nationales le destin du pays et surtout de ses habitants dont nous avons la chance ou le malheur de faire partie. Alors que faire ? Là, comme le disait le camarade dadaïste Lénine, la révolution ! Non, jamais le ventre creux, donc jamais avant de déjeuner. Alors, et si nous invitions un homme de la rue, tiens, la semaine prochaine ? Un homme qui passe son temps dans la rue ? Un vrai divergent ? C'est une idée, ça. Bon, on vous en fera la surprise. À ne pas rater lundi 31 mars sur Divergence, dans Thromboscopie de 12h à 13h30 en direct. Et en attendant, n'oubliez jamais que sur Divergence, la révolte n'est pas un droit, mais un devoir. Et qu'il ne suffit pas de descendre dans la rue, encore faut-il y rester. À lundi prochain.